Claude Debussy, la symphonie. On a entouré la symphonie avec cœur d'un brouillard de mots et d'épithètes considérables. On peut s'étonner qu'elle ne soit pas restée ensevelie sous l'amas de prose qu'elle suscita. Wagner proposa d'en compléter l'orchestration. D'autres imaginèrent d'en expliquer l'anecdote par des tableaux lumineux. En admettant qu'il y ait du mystère dans cette symphonie, on pourrait peut-être l'éclaircir, mais est-ce bien utile? Beethoven n'était pas littéraire pour deux sous, du moins pas dans le sens qu'on attribue aujourd'hui à ce mot. Il aimait orgueilleusement la musique. Elle était pour lui la passion, la joie, si durement absente de sa vie privée. Peut-être le faut-il voir dans la symphonie avec cœur qu'un geste plus démesuré d'orgueil musical, et voilà tout. Un petit cahier où sont notés plus de 200 aspects différents de l'idée conductrice du final de cette symphonie témoigne de sa recherche obstinée et de la spéculation purement musicale qui la guidait. Les vers de Schiller n'ont vraiment là qu'une valeur sonore. Il voulait que cette idée contînt son virtuel développement, et si elle est en soi d'une prodigieuse beauté, elle est magnifique par tout ce qu'elle répondit à son attente. Il n'y a pas d'exemple plus triomphant de la ductibilité d'une idée au monde qu'on lui propose. À chaque bond qu'elle fait, c'est une nouvelle joie. Cela sans fatigue, sans avoir l'air de se répéter. On dirait le chimérique épanouissement d'un arbre dont les feuilles jailliraient toutes à la fois. Rien dans cette œuvre aux proportions énormes n'est inutile. Pas même l'andante que de récentes esthétiques accusèrent de longueur. N'est-il pas un repos délicatement prévu entre la persistance rythmique du scherzo et le torrent instrumental roulant invinciblement les voix vers la gloire du final? Au surplus, Beethoven avait écrit 8 symphonies. Le chiffre 9 devait donc s'imposer d'une façon presque fatidique à son esprit. Et Beethoven s'imposa, lui, de se surpasser. Je ne vois guère qu'on puisse douter qu'il y ait réussi. Quant à l'humanité débordante qui fait éclater les limites habituelles de la symphonie, elle jaillit de son âme, laquelle, ivre de liberté, se meurtrissait, par une ironique combinaison de la destinée, au barreau doré que lui faisait l'amitié mal charitable des grands. Beethoven dut en souffrir en plein cœur et désirer ardemment que l'humanité communiât en lui. De là ce cri poussé par les 1000 voix de son génie vers ses frères les plus humbles comme les plus pauvres. A-t-il été entendu de cela? Question troublante. La symphonie avec cœur fut jouée récemment en compagnie de quelques faisandés chefs-d'œuvre de Richard Wagner. Tannhauser, Siegmund, Lohengrin clamèrent une fois de plus les revendications du leitmotiv. La sévère et loyale maîtrise du vieux Beethoven triompha aisément de ses boniments haut casqués et sans mandat bien précis. Il me semblait que depuis Beethoven, la preuve de l'inutilité de la symphonie était faite. Aussi bien chez Schumann et Mendelssohn, n'est-elle plus qu'une répétition respectueuse des mêmes formes, avec déjà moins de force. Pourtant, la 9e était une géniale indication, un désir magnifique d'agrandir, de libérer les formes habituelles en leur donnant des dimensions harmonieuses d'une fresque. La vraie leçon de Beethoven n'était donc pas de conserver l'ancienne forme, pas davantage l'obligation de remettre les pieds dans l'empreinte de ses premiers pas. Il fallait regarder par les fenêtres ouvertes sur le ciel libre. On me paraît les avoir fermées à peu près pour jamais. Les quelques géniales réussites dans le genre excusent mal les exercices studieux et figés qu'on dénomme par habitude symphonie. La jeune école russe tenta de rajeunir la symphonie en empruntant des idées aux thèmes populaires. Elle réussit à ciseler d'étincelants joyaux. Mais n'y avait-il pas là une gênante disproportion entre le thème et ce qu'on obligeait à fournir de développement? Bientôt, cependant, la mode du thème populaire s'étendit sur l'univers musical. On remua les moindres provinces de l'Est à l'Ouest. On arracha à de vieilles bouches paysannes des refrains ingénus, tout ahuris de se retrouver vêtus de dentelles harmonieuses. Ils en gardèrent un petit air tristement gêné, mais d'impérieux contrepoints les sommèrent d'avoir oublié leur paisible origine. Faut-il conclure, malgré tant de transformations essayées, que la symphonie appartenait au passé et par toute son élégance rectiligne, son ordonnance cérémonieuse, son public philosophique et fardé? N'a-t-on vraiment que mis à la place de son vieux cadre d'or éteint le cuivre désobligeant des instrumentations modernes? Une symphonie est construite généralement sur un choral que l'auteur entendit tout enfant. La première partie, c'est la présentation habituelle du thème sur lequel l'auteur va travailler. Puis commence l'obligatoire dislocation. La deuxième partie, c'est quelque chose comme le laboratoire du vide. La troisième partie se déride un peu dans une gaieté toute puérile, traversée par des phrases de sentimentalité forte. Le choral s'est retiré pendant ce temps-là, c'est plus convenable, mais il reparaît et la dislocation continue. Ça intéresse visiblement les spécialistes. Ils s'épongent le front et le public demande l'auteur. Mais l'auteur ne vient pas. Modeste, il écoute des voix certainement autorisées. Elle l'empêche, il me semble, d'entendre une voix plus personnelle.